Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti.
Bienvenue dans ce mini-épisode consacré à un objet culturel. Alors, on a déjà fait le tri dans la rentrée littéraire dans un épisode précédent, mais depuis, on a lu une œuvre qui émerge et qui sort vraiment du lot. Plutôt deux œuvres pour le prix d'une. C'est « Ce que je ne veux pas savoir » et « Le coût de la vie », doublon gagnant de la romancière britannique Deborah Levy, publié en France aux éditions du Sous-Sol et traduit par Céline Leroy. On va en parler avec toi, Pauline, salut.
Salut.
Alors, on va écouter un extrait.
A priori, le chaos représente notre pire crainte. Mais j'en suis venue à croire que c'est peut-être ce que nous désirons le plus. Si nous ne croyons pas à l'avenir que nous planifions, à la maison que nous payons avec emprunt, à la personne qui dort à nos côtés, alors peut-être qu'une tempête, longtemps tapie dans les nuages, pourrait nous rapprocher de ce que nous voulons être au monde.
J'adore ce passage, je le trouve incroyable.
Alors d'abord, de quoi nous parle cette Living Autobiography, comme l'appelle Deborah Levy, peut-être chronologiquement ?
Si on prend le premier tome, si on peut dire « Ce que je ne veux pas savoir », on a en fait Deborah Levy qui revient sur son enfance en Afrique du Sud. Donc elle est née à la fin des années 50 à Johannesburg. Son père était militant contre l'apartheid, il a été emprisonné plusieurs années. Pendant ce temps, sa mère s'est sacrifiée en étant sténodactylo pour faire vivre la famille. Je crois qu'elle aimait pas tellement ça, mais elle était contrainte à faire ce boulot pour nourrir ses enfants. Deborah Levy a elle-même été envoyée vivre chez une lointaine parente, puis ensuite sa famille a émigré au Royaume-Uni, il me semble quand elle avait autour de 9 ans. Elle parle ensuite de son propre rapport à la maternité et au sacrifice qu'elle vivra elle-même quand elle sera mère de famille. Elle parle également du racisme, du point de vue des Blancs, comme l'avait fait Doris Lessing avant elle. Elle dit que les Blancs, notamment, ont peur des Noirs parce qu'ils savent qu'ils les ont maltraités. Donc voilà un échantillon des sujets qu'elle aborde dans ce premier livre. On écoute un extrait.
Nous ne savions pas trop quoi faire d'elle. Cette jeune femme farouche et indépendante qui nous suivait partout, hurlant et pointant du doigt pendant que nous manœuvrions nos poussettes sous la pluie anglaise. Nous tenions de lui répondre, mais nous n'avions pas les mots pour lui expliquer que nous n'étions pas des femmes ayant simplement acquis des enfants. Nous nous étions métamorphosés, nouveaux corps alourdis, poitrines gonflées de lait, hormonalement programmés pour accourir aux moindres pleurs du bébé, en quelqu'un que nous ne comprenions pas vraiment.
Et Clémentine, le second tome alors ?
Oui, alors c'est la suite, mais on peut le lire dans le désordre. D'ailleurs, moi j'ai lu celui-là en premier. Donc ce livre-là parle plutôt donc d'un autre âge de la vie qui est la maturité, avec cet épisode qui est le divorce. Et donc on a la figure de la mère seule, mais aussi de la chambre à soi de l'écrivain ou de l'écrivaine, puisque la narratrice, donc dans ce deuxième livre, se sépare de son conjoint. Elle fait ses cartons, elle quitte la maison familiale pour s'installer avec ses deux filles dans un appartement assez insalubre du nord de Londres. D'ailleurs, elle utilise la métaphore du naufrage pour parler de son couple, puisque le livre raconte comment elle va fuir cette épave et tenter de surnager pour survivre. Ça nous fait un petit peu penser au livre de la poétesse Adrienne Rich, Diving into the Wreck, plonger dans le naufrage en français. Donc c'est vraiment un moment de crise qu'elle décrit où tous ses sens sont en alerte. Elle galère financièrement, elle entre aussi dans une phase très prolifique de son travail puisqu'elle a absolument besoin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle doit aussi trouver un lieu où écrire et donc elle va s'installer dans la cabane de jardin d'une amie. Et au même moment, sa mère est très malade, meurt et la narratrice se retrouve désorientée dans la ville.
Ouais, ça fait vraiment écho au vécu de sa propre mère aussi, justement.
Oui, effectivement. On écoute un extrait.
Arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale, où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c'est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements, ni amour, et qu'on néglige. Il faut de l'habileté du temps, de la dévotion et de l'empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C'est surtout un acte d'une générosité immense que d'être l'architecte du bien-être de tous les autres. Par conséquent, on utilise toutes sortes de mots pour minimiser cet effort monumental. Si l'épouse et mère a été fécondée par la société, elle joue le rôle de l'épouse et de la mère pour tout le monde. Elle a construit le récit que l'antique patriarcat a tracé pour la famille nucléaire hétérosexuelle et y a bien sûr ajouté quelques ornements contemporains qui lui sont propres. Ne pas se sentir chez elle dans sa propre maison est le début du plus grand récit créé par la société et du malaise féminin. Si elle n'est pas trop abattue, par le récit sociétal qu'elle incarne avec espoir, fierté, bonheur, ambivalence et rage, elle changera le récit.
Alors, est-ce que tu peux peut-être nous présenter Deborah Levy, puisqu'on la connaît très bien en Angleterre, mais beaucoup moins en France?
Oui, c'est regrettable. Donc, Deborah Levy, elle a d'abord écrit des pièces de théâtre et puis des romans, donc par exemple Hot Milk ou The Man Who Saw Everything. Et comme tu l'as dit, elle est très admirée dans le monde anglo-saxon. Ses pièces ont été jouées par la Royal Shakespeare Company. Elle est souvent shortlistée pour le prix Booker, très prestigieux. Et on espère qu'elle va finir par recevoir une haute distinction, puisqu'on l'aime beaucoup.
Ouais, il est temps.
Voilà, en France, elle a été shortlistée dans la première sélection des prix Médicis et Femina.
Allez !
Pour le prix du roman étranger. Elle a surtout fait des romans, comme j'ai dit, mais là, elle dit qu'elle utilise un jeu, J-E, qui n'est pas totalement elle, mais qui est quand même un peu elle. Le premier tome, donc, il est sorti en 2013, le second en 2018. Elle a commencé cette autobiographie vivante, comme elle l'a décrit, quand elle avait 40 ans. Elle l'a poursuivie à 50 ans et elle a prédit, et on s'en réjouit, qu'elle ferait la suite à 60 ans. Et elle trouve qu'il y a peu de matière littéraire sur ces années-là de la vie des femmes. Et c'est vrai que ces récits-là nous manquaient. Et moi, je suis très contente d'avoir une Deborah Levy pour raconter aussi magistralement ces périodes-là. Et je voudrais qu'elle m'accompagne même dans mes propres années de cinquantenaire et de sexagénaire.
On l'écoute parler justement de son écriture.
Yes, I mean, structure is my subject. It's what I love to get down to. I write in the shed. I hire a writing shed from a friend. And it's under an apple tree. It's not a posh shed. You could keep the lawnmower in it. It's got a desk and a heater and some books. And I take a flask of coffee. And, you know, structure is what absolutely fascinates me. But it's not actually what comes first. So what Lavinia is referring to here, something's wrong with the narrator. She's crying on escalators. Why? And I leave that happen. I leave that suspended for the time being, and later, under the heading "Historical Impulse," we discover that what has come to chase her on the escalators in London is South Africa, 1968. So I'm looking at how the past comes to chase us. From another country, from another time, in the present.
Donc, pour traduire en français, elle explique que son vrai sujet, c'est la structure. Elle raconte qu'elle écrit aussi donc dans une cabane de jardin qui n'est pas chic du tout, comme on l'a dit précédemment. Elle explique que le livre dont on parlait, « Ce que je ne veux pas savoir », commence par une narratrice qui pleure dans des escalators à Londres, et on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est l'histoire ancienne, l'histoire de son enfance en Afrique du Sud, qui la poursuit des années plus tard et qui l'a fait pleurer. Et on comprendra pourquoi dans la suite du livre.
Ouais, il y a toute une réflexion sur le passé et la manière dont il hante le présent. C'est vraiment filé dans les deux tomes. Par ailleurs, le sujet m'a fait penser un peu plus trivialement, on va dire, à l'héroïne du livre de Chloé Delhomme de cette rentrée littéraire Cœur synthétique. Alors, c'est pas du tout le même genre, hein, pas du tout. Mais le thème, notamment dans Le coup de la vie du divorce, de la séparation. Ça m'a un peu fait penser à cette thématique-là, des errances affectives de l'héroïne de Delhomme, qui était une femme de 46 ans qui vient de se séparer. Et je trouve qu'en termes de représentation, c'est cool que les autrices s'emparent de ce sujet.
Oui, non, c'est pas du tout le même ton, effectivement.
Pas du tout, mais disons que le thème m'a évoqué le livre de Delhomme et je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a deux livres qui parlent de ça à la rentrée. Donc oui, le texte de Levy est beaucoup plus puissant, enfin on y reviendra. Elle a expliqué d'ailleurs sa démarche dans la presse, qui a vraiment une visée politique autant que poétique, avec des vrais enjeux de représentation justement pour les femmes. Donc en fait, elle dit, en gros, si j'essaie de traduire, qu'elle veut se distancier du personnage féminin old school, classique, tel qu'il est écrit d'habitude par les hommes pour un lectorat féminin, qui est fait uniquement de souffrance, d'endurance à la douleur et au sacrifice. Donc ça, elle dit ça au Guardian. En fait, elle dit que si une femme sort du récit sociétal qui lui est imposée. Son idée, c'est qu'en fait, c'est plutôt un bon endroit où se trouver pour une femme. Donc cette idée de sortir du récit patriarcal, du récit qui accompagne nos vies. Et elle dit « My book is about the joy of creating a home for this other life ». Donc mon livre, ça parle de cette joie, mais aussi du désespoir, je pense, que c'est que de créer une maison et un foyer en dehors de cette vie qui a été dictée par le patriarcat. Enfin, je le comprends comme ça. Elle est très féministe, évidemment. Quelques petits fun facts. Elle porte toujours des perles. Elle est très anti-Marie Kondo. Moi, je me reconnais là-dedans.
Hello. I'm Marie Kondo. 私のミッションは片付けによって世界をときめかせていくことです。
Et pendant le confinement, on lui a demandé un livre doudou et elle a recommandé l'autobiographie complètement déchirée de Salvador Dali. Lol, donc ça donne une petite idée du personnage. Alors qu'est-ce qu'on en pense, Clémentine ?
Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense puisqu'on est assez d'accord. Pour moi, c'est vraiment une découverte assez folle, comme on en fait peut-être une fois par an en littérature. Je trouve que le livre est vraiment très au-dessus du reste de la rentrée littéraire, en tout cas de ce que j'en ai lu, puisque je n'ai pas lu tous les livres. Sachez également que ce sont deux livres très courts, voilà, par rapport à de nombreux pavés qui sont sortis récemment, que ça se situe entre l'essai personnel, les mémoires, les méditations. On l'a comparé à Maggie Nelson, mais aussi à Joanne Didion, à Janet Winterson. Après, évidemment, elle a un style propre qui mêle la réflexion, le récit et des références littéraires et philosophiques. Je trouve qu'effectivement, c'est une réflexion qui est assez fulgurante sur la maturité quand on est une femme. Ce qu'elle écrit est quand même très éloquent sur ce que la séparation de la vie conjugale fait à l'identité féminine. D'ailleurs, elle évoque parfois Simone de Beauvoir, son indépendance, son choix de ne pas avoir d'enfant, mais aussi son idée de la féminité comme mascarade. Il y a aussi d'autres figures tutélaires qui hantent ces livres-là, notamment celle de Marguerite Duras, qui a quand même écrit un texte incroyable qu'elle cite sur la maternité qui serait comme être un jardin que vos enfants piétinent. Elle dit c'est comme être la banlieue de la féminité. Voilà, elle parle aussi d'autres femmes artistes comme Louise Bourgeois et elle s'interroge, est-ce qu'être une femme, c'est comme être un personnage secondaire d'un roman ? Est-ce qu'on est soi-même le personnage secondaire de sa propre vie ? Comment faire pour redevenir le personnage principal de son propre récit ? Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un ton, une qualité d'observation qui en font pour moi la grande œuvre du ce qu'on appelle en anglais le middle age, donc la quarantaine, la cinquantaine en français, qui est à la fois on est un peu dans le dur de la vie, mais c'est un peu aussi le ventre mou de la littérature. Et d'ailleurs Laure Adler en parle dans son dernier livre qui vient de sortir. Donc voilà, la question c'est un peu quand elle parle du coût de la vie, quel est le prix de cette liberté en fait. Voilà,
c'est absolument vertigineux en fait.
On écoute un autre extrait.
Comme tout ce qui implique de l'amour, nos enfants nous rendaient heureuses au-delà de toute mesure et aussi malheureuses. Mais ne nous mettaient jamais dans un état aussi déplorable que le faisait le néo-patriarcat du XXIe siècle. Ce dernier exigeait de nous d'être passives, mais ambitieuses, maternelles, mais pleines d'une énergie érotique, dans le sacrifice mais comblé. Nous devions être des femmes modernes et fortes, tout en étant soumises à toutes sortes d'humiliations, tant économiques que domestiques. Si nous passions la plupart de notre temps à culpabiliser sur tout, nous n'étions pas certaines pour autant de savoir ce que nous avions fait de travers.
Et toi alors, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Bah, je vais essayer de pas parler pendant une heure, mais c'est vraiment magnifique, enfin, je suis absolument d'accord. Pour moi aussi, c'est une découverte, et même si j'ai lu pareil que quelques livres de la rentrée littéraire, ça me paraît pareil, vraiment au-dessus. Déborah Lévy aborde des sujets qui englobent à la fois la banalité et le vertigineux, justement. Comment un système se disloque après un divorce ? Comment les femmes consument toute leur énergie en essayant de bâtir des foyers fonctionnels qui ont pour principal résultat de satisfaire les besoins des autres et pas les siens, évidemment. Elle en parle vraiment extraordinairement bien. Comment on débouche une tuyauterie ? Comment on se chauffe dans un appartement hors d'âge où la chaudière est tout le temps en panne ? Comment on écrit quand on n'a pas de place et pas de bureau ? Ça, c'est ce que tu avais évoqué. La figure de la femme divorcée, on a eu beaucoup de représentations qui en font une figure un peu passive ou sujet à la plaisanterie ou même à l'autodérision. Là, je trouve qu'il y a de l'humour, mais on est quand même très loin de quelque chose de superficiel ou justement qui soit trop dans l'autodérision. Enfin, c'est quand même un sujet grave et c'est abordé comme tel. L'héroïne auteur est tout le temps dans l'action. fond. Et en fait, elle écrit, elle se débat avec le deuil de sa relation passée et aussi avec la survie économique, parce qu'elle dit qu'il faut qu'elle gagne sa vie.
Moi, j'ai apprécié qu'il y ait très peu de place consacrée à cet ex-homme de sa vie.
C'est clair, il est complètement évacué.
C'est clair.
Et on comprend que ça s'est très mal passé, mais en fait...
C'est auto-évacué de l'histoire.
C'est ça. Et en fait, pendant toute cette période, elle a des fulgurances. Donc, elle va penser à de la poésie d'Emily Dickinson, mais aussi à comment éradiquer les mythes qui sévissent dans sa cuisine.
Multitasking de cerveau féminin.
Exactement. Et c'est passionnant. Et c'est vraiment ce flux de pensée. Et en fait, c'est la même perfection d'écriture pour décrire les deux. C'est ça qui est fou. Et il n'y a pas de petit sujet, en fait. Et ça, c'en est une démonstration vraiment éblouissante.
Ouais.
Donc, voilà.
CF, les passages sur le vélo électrique.
Les passages sur le vélo électrique, c'est absolument extraordinaire.
Qui, pour le coup, deviennent le personnage principal de son récit, plus qu'elle, en fait.
Non, puis ça va se loger dans du tout petit détail. Elle va chercher des glaces à eau parfumées citron vert pour sa mère qui est en train de mourir parce que c'est la seule chose qu'elle peut avaler. Et ça devient un enjeu, mais narratif incroyable. Et c'est déchirant, ça devient épique. Donc, je parlais de Delhomme tout à l'heure, donc c'est pas du tout la même démarche parce qu'elle, elle voulait faire une parodie de Chick Lit. Mais pour moi, Lévy arrive à faire ce que Delhomme ne parvient pas forcément à atteindre, c'est-à-dire à éclairer d'une lumière crue les détails du déclassement après une séparation, de la sortie de la famille nucléaire traditionnelle, avec le logement plus petit, les jardinières de fleurs rescapées de l'ancienne maison qui rentrent pas dans la nouvelle maison, le fait qu'il faille écrire pour nourrir ses filles, le fait qu'il faut vivre alors qu'on a l'esprit colonisé par l'histoire d'amour terminée. Donc voilà, elle parle aussi du fantôme que devient l'idéal amoureux d'une vie partagée jusqu'à la mort, à laquelle on de nous faire croire en tant que femme. Et voilà, l'écriture, quant à elle, elle est très précise. Elle te parle de ses chaussons d'intérieur et après, elle te dit qu'elle ne sait pas comment vivre dans cette nouvelle vie et tout est beau. Et c'est à la fois dense et en même temps... elle va convoquer plein de citations, mais en même temps, il y a une économie de mots. C'est court, comme tu l'as dit, et une justesse absolue dans ces mots qu'elle utilise et qu'elle choisit. Donc voilà, pour moi, c'est bouleversant. Et elle parle aussi donc de ce je, J-E, dont elle dit que c'est elle et pas elle en même temps. Je trouve qu'il est très puissant ce je. Il résout plein de dilemmes posés dans d'autres livres de la rentrée littéraire. Par exemple, comment on expose le réel en s'exposant soi et pas les siens. C'est ce qu'avait évoqué Fatima Das dans son livre La Petite Dernière. Et c'est incroyable comment Deborah Lévy concilie son entreprise littéraire ambitieuse, donc parler des avatars de la féminité, avec la quotidienneté et presque la trivialité de ce jeu. Et je pense par exemple à une scène où elle débouche la tuyauterie encore une fois. Et en fait, c'est magique. Elle exhume des cheveux et on dirait qu'elle tombe sur un trésor et en même temps, elle porte ses chaussons de chamane. Enfin voilà, complètement dingue. Et ce qui contribue à mon sens grandement à la qualité de ce texte, c'est aussi sa traduction. Et par ailleurs, pourquoi Clémentine, on la découvre si tard en France?
Tu fais bien de poser la question, Pauline. Justement, j'ai posé la question donc à sa traductrice Céline Leroy, qui nous a expliqué que c'était en fait un hasard, puisque l'un de ses romans qui s'appelle Sous l'eau a d'abord été publié chez Flammarion il y a quelques années et n'a pas marché. Donc les éditions Flammarion n'ont pas poursuivi cette collaboration avec Deborah Lévy, hélas. Heureusement, les éditions du Sous-sol, qu'on aime beaucoup, ont acheté ses titres récemment, mais aussi son dernier roman en date, donc The Man Who Saw Everything, qui sera ensuite publié après donc, le troisième volume de cette Living Autobiography, donc on a hâte. Céline Leroy nous a aussi parlé de son travail de traduction, je la cite. Quant à l'écriture, elle diffère un peu de ses romans, d'une simplicité qui n'est qu'apparente. Les mots sont simples, mais choisis très minutieusement et répétés à des endroits stratégiques pour renforcer son propos. C'est un tissu très dense de références personnelles et culturelles qui se renvoie sans cesse la balle à l'intérieur de chaque livre et d'un livre à l'autre. J'aime beaucoup comment elle travaille l'anecdote, aussi la petite histoire qui en fait dit tout d'une vie, du fonctionnement de notre société. Voilà.
Oui, c'est exactement ça et c'est vraiment de la dentelle en fait et je pense que c'est beaucoup de travail sous une apparente simplicité et j'ai envie de dire que la traduction est vraiment une réussite aussi parce qu'on sent qu'elle a vraiment respecté le rythme, le ton, la fluidité, c'est pas évident. Je pense que c'est un tour de force de réussir ça et d'ailleurs Céline Leroy a aussi traduit Maggie Nelson.
Ouais, big up Céline. Ouais. En tout cas, voilà, on a hâte de lire la suite. Dites-nous si vous avez lu ou si vous comptez lire Deborah Lévy, on vous souhaite de faire la même découverte que nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long où l'on parlera de l'université. Merci. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Pauline Verdusier.
Mixage Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Lecture, prise de son, montage et coordination Ashley Tola.